Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h09, de retour dans les grandes gueules du sport. Bonjour à tous, si vous venez de nous rejoindre, vous le savez, les grandes gueules du sport, c'est à partir de 9h en direct. Notez bien cet horaire, à partir de 9h jusqu'à midi. Vous êtes plus d'un million d'auditeurs à nous écouter tous les samedis. Merci infiniment de votre fidélité. Toujours avec Marion Bartoli, Christophe Cessieux, Denis Charvet, Fred Weiss, la quête du 25e Grand Chelem pour Novak Djokovic. Faut-il encore y croire ? C'est le bras de fer des GG dans quelques instants. Le Tour de France est une course qui ne me passionne pas. Le blasphème du petit-fils de Raymond Poulidor, Mathieu Van Der Poel. C'est la punchline à 10h30. Et puis 10h45, vous le savez, les GG contre-attaque, mes grandes gueules, vous avez tous proposé un débat il y a quelques minutes. Et pour l'instant, Christophe Cessieux est en train de vous ratiboiser. 46% pour la malédiction de l'aube.
Incroyable.
Sur le Dakar.
C'est normal. C'est logique.
46%. Ouais, on notera le bel effort des enfants de superstar Wayne Rooney, le fils de Wayne Rooney qui a des petits problèmes, qui se fait insulter, qui veut devenir footballeur comme lui. C'est 13% pour notre ami, il est dernier.
Je suis à 100%.
Franchement, bravo, vraiment, 13%. Ouais. Mais 46%, vous pouvez encore aller voter. Mais il n'est pas impossible que l'on parle à partir de 10h45 de notre pilote français. Allez, pour débuter cette nouvelle heure, cette citation de Nicolas Machiavel, qui a dit un jour, régner, c'est faire croire.
RMC, le bras de fer GG.
Novak Djokovic écrit une nouvelle page de l'histoire de ce sport. 7e victoire à Wimbledon en 8 finales. 21e titre du Grand Chelem.
C'est une légende, bien sûr.
C'est fini ! Novak Djokovic, il n'exulte même pas. Il suffit du regard des spectateurs du Châtrier. Mais le 19e est là.
J'avais envie de connaître la légende.
C'est gagné pour Carlos Alcaraz à l'issue du final parfaitement maîtrisé.
Non, c'est pas terrible.
C'est gagnant, c'est fini. Novak Djokovic tombe. L'impensable s'est produit à Melbourne.
La gloire, la légende, les quêtes, tout ça, c'est pas terrible.
C'est Novak Djokovic qui sort de ce tableau de l'US Open 2024. Il n'y a plus de patron dans ce tableau masculin.
Une antique légende.
C'est the last dance for me.
Une année blanche en 2024. Novak Djokovic a signé un improbable zéro pointé en grand chelem, une première pour lui depuis 7 ans, à bientôt 38 ans, avec un nouveau coach, Andy Murray. Le Serbe se lance dans l'ultime défi de sa carrière, remporter un 25e grand chelem. Djoko serait alors seul au monde, dépassant Margaret Court dans le livre des records. La quête du 25e grand chelem de Djoko. Faut-il encore y croire? Et c'est souvent comme ça que l'on voit si c'est un bon bras de fer. Parce que c'est extrêmement serré sur le compte X des grandes gueules du sport. Dans le coin gauche, la team non, il ne faut plus y croire. Fred Weiss, Denis Charvet, 49% pour vous. Dans le coin droit, la team oui, représentée par Marion Bartoli et Christophe Cessieux, 51% pour vous. La décision va se faire.
C'est une alliance contre nature, mais on va vous mettre une pile. Les deux là.
Il y a un truc qui va pas.
Pour une fois, ils sont d'accord et on est très heureux. Ça n'arrive pas souvent, ça va nous faire et me faire un petit peu de repos. 51-49. La décision, ce sera sur vos arguments.
Oui,
c'est là que ça va se jouer. On va retrouver, juste avant de vous entendre en direct de Melbourne, notre envoyé spécial Eric Salio. Salut Eric.
Salut les amis.
Très heureux de te retrouver Eric. Pour cette nouvelle année, mon cher Eric. C'est vrai que Djoko a tout changé pour de nouveau gagner.
Oui, disons qu'il sentait le besoin de s'appuyer sur un coach de renom pour se donner un coup de boost. Il souhaitait un multiple vainqueur de Grand Chelem. Il faut dire que le choix était assez restreint. D'où le coup de fil à Andy Murray, à la retraite depuis 6 mois. Et hier, en conférence de presse, le Serbe a justifié son cheminement.
Je crois qu'il a été quelque peu surpris par mon appel. Son QI tennis est incomparable. Tout le monde s'accorde à le dire. On est encore en train de se découvrir. On a effectué une préparation d'une semaine en décembre. Et là, ça fait 4 jours qu'il est à Melbourne.
Quelle voix.
Il me donne de la motivation et m'inspire par sa présence sur le court. On communique beaucoup. Il essaie de me comprendre sur plein d'aspects. Et c'est pour cela qu'il échange avec les autres membres de ma team. Il est très méticuleux, très pro. Pour l'instant, j'apprécie vraiment cette collaboration.
Les deux hommes ne comptent pas leurs heures sur les courts de Melbourne Park et ça fait parler dans le vestiaire. Daniil Medvedev a trouvé une superbe formule qui ne mérite pas de traduction.
Imagine Messi would become the coach of Cristiano Ronaldo. Like, would be strange.
Bon, pas sûr que le Portugais et l'Argentin s'apprécient tant que cela, alors que les deux tennismen ont toujours éprouvé un grand respect l'un pour l'autre. Lucas Pouille, aussi, qu'on a rencontré ce matin, ne cache pas une certaine excitation.
Surpris, je me suis dit, un mec qui veut pas rester à la maison, c'est quand même étonnant. Je me dis qu'à partir du moment où un joueur comme Novak te demande, bah tu te dis que c'est quand même une expérience assez sympa. Je trouve ça marrant de voir comment un de ses plus grands adversaires va pouvoir être amené à l'aider et lui amener quelque chose en plus et le rebooster pour qu'il aille chercher un dernier grand chelem.
Si Novak Djokovic remporte son 25e chelem le 26 janvier, il aurait eu une inspiration de génie. Mais on va attendre de voir son niveau de jeu lundi matin en heure française face à une wildcard américaine. Puis tomber à la 7e place mondiale, il y aura un parcours semé d'embûches avec un possible quart de finale face à Carlos Alcaraz.
Merci beaucoup Eric Salio pour ces précisions. Évidemment, tu restes avec nous en direct de Melbourne pour ce débat. On va avoir besoin de toi parce que comme tu l'as compris, c'est extrêmement serré. La quête du 25e Grand Chelem. Faut-il encore y croire ? J'ai du non, j'ai du oui. Il y a 49% pour le non, 51% pour le oui. Messieurs du non, Denis Charvet, Fred Veil, c'est vous qui commencez. Denis, pourquoi non ?
Écoute, alors l'argument de dire qu'il a un tableau difficile, je laisserai à Fred tout à l'heure, à mon camarade. Mais moi, je m'appuie plus sur le mental. Enfin, sur le physique, pardon, excusez-moi. Ce mec a eu un mental extraordinaire. Je crois que c'est un des sportifs qui a le plus beau mental, le plus grand mental de toute l'histoire, de tout sport confondu. Moi, je me souviens d'une finale en 2019 à Wimbledon où il sauve deux balles de match contre Federer. Le grand Federer, il gagne derrière, il a 45 pour Federer, et derrière, il retourne, il fait 40 ans, il gagne Wimbledon. C'est un mec, ce jour-là, j'ai vu un extraterrestre, un alien. Vraiment, mentalement, je m'exprime.
Après, mais t'es en train de m'abandonner, Denis, ou quoi?
Pourquoi?
Parce que t'es en train de, justement, de leur donner des arguments.
Non, parce que pour moi,
il faut savoir qu'il est engagé pour ça, Denis, hein, pour s'aborder ses petits copains.
Non, justement, maintenant, je vais en venir au fait que le physique, le mental est lié au physique et que je pense que physiquement, il n'aura plus la capacité à tenir des grands chelem de 15 jours avec des rencontres en 5-7 sur une durée comme ça. Je pense que ça va être extrêmement dur d'enchaîner et que le mental ne suffira pas. C'est pour ça que j'expliquais que ça a été un mec extraordinaire au niveau mental, mais qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Et d'ailleurs, ce qui est significatif, c'est qu'il n'a pas gagné un grand chelem de l'année dernière. Il a fait une finale à Wimbledon, il a perdu. Et cette finale perdue à Wimbledon, eh bien, ça va lui enlever de la confiance aussi. Parce que s'il va en finale en Australie, eh bien, il sait qu'il peut encore perdre. Donc je pense que Djoko, on n'a plus le même Djoko qu'avant, et c'est en ça que je me dis qu'il va rester à 24 grands chelems, et puis tranquillement.
La première lame, ce sera Christophe Sessieux pour te répondre, ouais, et ensuite, pour définitivement vous abattre, ce sera Marion
Bartoli. Moi, c'est une petite serpe, derrière, t'as la guillotine. Ne l'oublie pas.
Christophe, pourquoi oui?
Vous êtes quand même des athlètes de haut niveau, vous avez été au sommet, ouais. Et je n'arrive pas à comprendre comment des gens comme vous, qui avaient touché du doigt ce qu'est le sport de haut niveau, ne pouvaient plus croire en ce garçon à Melbourne. Moi, je trouve ça dingue de ne pas imaginer le Joker, plus grand, l'un des plus grands sportifs de tous les temps, capable de remporter ce tournoi.
Tu pensais que Nadal allait finir comme ça aussi?
Mais qu'est-ce que tu compares là? Mais regarde, il est en état.
Il était
sur une jambe, ça fait des années qu'il était sur une jambe. Et Federer, c'était la même chose.
Djoko, je suis pas sûr qu'il soit en état.
Je pense qu'il est en état. Autrement, il serait pas aligné. Et puis, de toute façon, même quand il est pas en état, rappelle-toi les tournois qu'il a gagnés alors qu'il avait soi-disant
un peu comme. Il a gagné.
Ça veut dire si en plus, il est chez lui. L'Australien est à Djokovic, ce que Roland Garros était à Nadal, même si la surface de Melbourne est moins spécifique que la terre de Roland, mais il n'empêche, il est là-bas chez lui, et je pense que 3 ans plus tard, il a encore une revanche à prendre sur les Australiens. Il a déjà pris en 2023 en étant autorisé à revenir en Australie et en gagnant, mais là, je ne sais pas si vous avez lu les déclats qu'il a
donné.
Mais il a besoin de ça, il a besoin de se fabriquer des ennemis, Djokovic, pour pouvoir mieux les abattre. Et là, il a en ligne de mire tous les Australiens, tous les politiques et tous les juges australiens qui l'ont empêché, qui l'ont mis en prison, qui l'ont dégagé avec un coup de pied au cul en 2022. Et je pense que ça le motive plus que tout. Il a besoin de se trouver des
moi, sujets. Ça suffira pas. Ça, c'est des arguments qui tiennent pas la route.
Bien sûr.
Si le physique n'aime pas, non, c'est pas les arguments qui peuvent tenir.
Mais bien sûr, mais c'est un tocard en plus.
Je dis juste que c'est levier de motivation, on les connaît tous, mais à un moment donné, ça a des limites, tout simplement. Parce que,
mais non, mais à un moment, tu peux pas bouger un corps qui veut plus bouger, exactement. En fait. C'est trop facile de dire que la tête ne bouge plus, en fait.
Tu sais quoi, j'aimerais bien bouger comme lui.
Non, mais évidemment, tu vois, on parlait justement de ce qu'il allait arriver à Djoko. Qu'est-ce qui va se passer? Il va jouer contre Alcaraz, normalement. Zverev, Sinner, sur des matchs en 3-7 gagnants.
À la suite.
Eh, hey, les gars, à un moment, je veux bien rêver, c'est beau d'avoir un mental d'acier. À un moment, il joue contre des joueurs plus jeunes qui tapent dur. Et est-ce qu'il a gagné quelque chose sur 3-7 l'année dernière? Son corps l'a rattrapé l'année dernière. Alors oui,
il a gagné les JO.
Il a gagné les JO. Parce que c'est en 7 gagnants. Et parce que c'était son objectif absolu.
C'est des matchs tous les jours.
Et ben là, son objectif cette année, c'est de gagner. D'accord. À nouveau.
Moi, je me fixe plein d'objectifs, moi, dans la vie. Mais malheureusement, je ne peux pas tout réaliser.
Ok, Mario Bartoli, pourquoi oui? Pourquoi tu crois encore?
J'ai les oreilles qui sifflent depuis tout à l'heure.
J'attends
patiemment dans mon coin.
Vas-y, la guillotine.
Non, mais déjà, à chaque fois, nous dire. Ah, mais 2024, il avait une année blanche, il n'a pas gagné grand-chose. On sait très bien que c'est l'année 2024. Il voulait absolument gagner quelque chose. C'est les Olympiques. Il n'y avait que ça qui l'intéressait. C'était sa dernière chance. Il a tout misé là-dessus. Je vous rappelle quand même qu'il s'est fait le ménisque à Roland-Garros, qu'il est arrivé à faire une finale de Wim sur une jambe. Et encore, quand je dis une jambe, pour pas dire une demi-jambe, il fait quand même finale de Wimbledon. Son objectif absolu, c'était les Jeux Olympiques. Après ça, qu'il y a eu un moment de décompression, il est allé à l'US Open, il voulait même pas y aller, mais comme c'était un grand chelem, il a décidé d'y aller. Mmh. Son objectif pour 2025, non plus rien à voir. Bien évidemment qu'il va se lancer à corps perdu aujourd'hui dans ses objectifs de remporter à nouveau des tournois du grand chelem. S'il a pris Andy Murray, c'est pas pour venir faire du tourisme à Melbourne, venir avec l'appareil photo et les claquettes et voir les autres jouer. C'est pour aller gagner. Je te rappelle quand même que sur dur, Novak Djokovic reste le joueur qui a le plus remporté toi du Grand Chelem sur dur, puisqu'il a 10 Open d'Australie et 4 US Open, oui, ce qui constitue un record. Qu'il a le plus de victoires dans tous les tournois du Grand Chelem confondus, qu'il a remporté plus de 90 matchs sur chaque tournoi du Grand Chelem.
Donc il est meilleur que Sinner,
c'est dernières. Il a remporté les 6 dernières Open d'Australie sur dur. Là, statistiquement, oui, tu veux pas me dire ça. Statistiquement, l'autre, il est au début de sa carrière, l'autre, il a 24 Grand Chelem. Bien évidemment qu'il est meilleur.
On est d'accord.
Bien évidemment qu'il est meilleur. Ça n'a rien à voir.
Mais Mario, si on t'écoute, en fait, tu prends juste le palmarès et puis il va gagner les 4 grands chelems cette année.
Mais Alcaraz n'a jamais dépassé l'écart en Australie, déjà, pour commencer. Alcaraz, Open d'Australie, c'est pas sa surface. Zverev n'a jamais gagné un tournoi du Grand Chelem, c'est un immense souci pour lui. Psychologiquement, quand il arrive dans les derniers carrés, ou voire en finale, à chaque fois, c'est extrêmement compliqué pour lui pour gérer ses émotions. Je peux vous assurer, si on est sur la road, en demi-finale, et c'est Djokovic-Zverev, c'est Djokovic qui va partir archi favori, et tout le monde le sait. Zverev inclus. Et ensuite, sur une finale de Grand Chelem, quand t'as été autant maître de ce cours pendant des années, l'année dernière, la demi contre Sinner, faut quand même pas oublier qu'il a terminé avec la Coupe Davis pour les premières semaines de décembre, qu'il a fait aucune pré-saison et qu'il a enchaîné après une saison 2023 absolument gigantesque. Donc, il est arrivé à l'Open d'Australie, il n'a pas fait de pré-saison. Donc, bien sûr, sur quelqu'un qui est plus jeune et qui a lui aussi, bien évidemment, l'envie de prendre la place. Quand t'es un joueur qui n'a pas pu faire de pré-saison, qui n'a pas pu faire Roland Civil, qu'il est arrivé sur un fin de cycle. Yeah. Mais tu peux pas déterminer la qualité d'un joueur sur un match, un demi-finale d'Open d'Australie, parce que Novak avait enchaîné une saison absolument exceptionnelle.
Et que parce que avec son expérience, son mental et son tennis, il allait battre tout le monde. C'est pas ce qui s'est passé non plus. Donc c'est pas parce que
Nadal avait des blessures qui ne pouvaient plus l'empêcher de performer. Djokovic n'a pas de blessure aujourd'hui.
Djokovic
n'a aucune blessure aujourd'hui.
J'ai une petite, messieurs, quand même, vous affirmez des choses, mais vous n'avez même pas regardé le tableau.
Si,
vous
n'aviez
même
savais,
pas qui était en quart et en demi.
Sinner et
Zverev. Tu comprends Sinner et Zverev, là, on est bien barré quand même. On est bien barré, là, Mario.
Rapidement.
Moi, j'ai une question pour Marion. Est-ce que sérieusement, tu le connais bien, t'es copain avec lui, t'es ami même avec lui, est-ce que tu penses sincèrement que physiquement, je parle sur l'aspect physique uniquement, il a encore les capacités d'enchaîner sur 15 jours sur un grand chelem avec des matchs en 5-7 pour aller jusqu'à la victoire.
Rapidement, Marion.
Alors, je vais te répondre très rapidement. Il a encore une année dans les jambes pour le faire. Pour moi, le grand chelem où il est le plus favori sur 2025, c'est Wimbledon, parce qu'il a une telle expérience sur gazon, qu'il a une telle maîtrise du jeu. Il l'a encore prouvé en 2024. Il a atteint la finale, je te dis, était loin d'être à son meilleur niveau physique. Donc pour moi, Wimbledon, ça restera à sa plus grande chance d'aller gagner un tournoi du grand chelem. Pour moi, il a 2025 où il va encore tout donner. À partir de fin 2025, oui, bien sûr que les années vont le rattraper, que ça va être de plus en plus difficile. Mais vous m'avez cité Rafa et Roger. Rafa et Roger avaient des blessures pour l'un au genou et pour l'autre à la hanche, un petit peu partout, qui devenait un handicap beaucoup trop majeur, à la fois pour leur préparation et à la fois pour leur performance sur le terrain. Aujourd'hui, Novak Djokovic n'a aucune blessure, en tout cas aucune blessure.
Oui, mais dites dans le public, dites à la presse.
Ok, je reprends la main parce que Eric Salio nous attend en direct toujours de Melbourne. Eric, moi je m'adresse toujours à Madame Irma dans ces cas-là parce que l'année dernière il nous a donné une leçon, Eric, qui adore Novak Djokovic, mais il nous avait dit en grand chelem, il va faire une année blanche. Il va peut-être gagner Roland Garros, une année blanche. Bravo. Enfin, Roland Garros, il va peut-être gagner les JO, hein, évidemment, à Roland. Mais sinon, il fera une année blanche. Alors, c'est quoi ton feeling? Parce que si je regarde les cotes, là, comme ça, c'est la première fois que je vois Novak Djokovic à 6,50 pour remporter l'Open d'Australie. 2,25 pour Yannick Sinner, 4,50 pour Carlos Alcaraz. Ça, c'est pour les bookmakers. Pour toi, mon cher Eric.
Non, mais je sais pas, l'an passé, j'avais ce pressentiment. Là, je l'ai pas parce que. Je suis un peu d'accord avec Marion, il va tout donner sur cette année 2025 et moi je pense qu'il va tout donner sur cette Open d'Australie. Ça vous a pas échappé, il a stoppé sa saison très très tôt, hein. On l'a pas vu à Bercy, ouais. il a pas fait le Master, donc il s'est requinqué, il y a une fraîcheur mentale qui est là, ça c'est indiscutable. Murray lui fait beaucoup de bien parce que là je les vois parfois sur les cours d'entraînement, là ça bosse et Murray, bah comme il le dit, il a un QI tennis extraordinaire et ça va lui servir forcément pour préparer les matchs. Donc eh ben je vais tenter un coup de poker. Je vois bien Novak Djokovic en finale de cette Open d'Australie.
Et pas le gagner.
Merci.
Parce que Sinner en face, c'est quand même du super costaud.
On est d'accord. Merci Eric.
On aura la réponse pour la suspension de Sinner en avril.
Mais il y a des dossiers qui risquent de. Il y a des dossiers qui vont sortir ces jours-ci sur Sinner. Donc attention à la pression qu'il va avoir sur les épaules.
Lionel nous appelle au 32-16. Il veut participer à notre débat. Salut Lionel.
Salut l'équipe.
Alors mon Lionel, dans quel camp tu te trouves? Parce que c'est extrêmement serré, c'est le camp du non, il faut plus y croire, Fred Weiss, Denis Charvet, ou oui, Christophe Cessieux, Marion Bartoli.
Non mais je comprends même pas ce débat quoi. Comment vous pouvez douter de Djokovic? Le gars, lui seul, le gars il se présente, avant même d'avoir fait son match, il a un ascendant sur tout le monde. C'est-à-dire que quand il rentre sur le terrain, que ce soit même Sinner qui a une assurance hors norme, il va pas arriver devant Medvedev comme devant Djokovic. Parce qu'il sait très bien que même.
Il a déjà battu Sinner, Djokovic. Il a pas peur de Djoko quand même, Sinner.
Laisse-moi terminer, Denis, parce que je suis totalement d'accord avec beaucoup de choses là-dessus. Sauf qu'en tennis, t'es trop hâtif. T'es trop. C'est lui qui va gagner parce qu'il gagne trop. C'est pas comme ça, le tennis. Le tennis, tu peux mener pendant 2 heures. Va demander à Medvedev ce qu'il pense des finales, lui. Le pauvre, il avait eu plein de grands. Et tu peux, Djokovic, même si c'est un Nadal, sans blessure.
Et s'il n'a pas de pétrole dans le moteur, comment il fait? Explique-moi, à un moment donné, s'il n'y a plus de pétrole.
Tu veux que je te raconte des finales où, bon, après, c'est un autre débat, on ne va pas rentrer dans des sujets, je ne veux pas me mettre Marion à dos parce que je suis complètement dans son camp. Va demander à Tsitsipas le jour où il sort en finale de Roland-Garros.
De 7 à 0.
Il va pas finir le match. Il va abandonner parce que lui, il abandonne. Hein. Ce n'est pas Nadal qui s'arrache. Mais par contre, s'il voit un moment qu'il peut gagner, mais il va jouer, même pas pour gagner, il va jouer pour mettre le doute
dans son attaque. C'est pas aujourd'hui, ça, non? C'était hier, ça, c'est pas aujourd'hui, justement.
Eh ben, on verra, il aura toujours en lui.
Mais encore une fois, vous parlez comme si on avait d'un joueur qui était blessé. Novak Djokovic n'est pas blessé. Et n'oubliez pas quand même que Sinner, il a sa comparution qui arrive, il risque 1 ou 2 ans de suspension. Ça va quand même un tout petit peu lui trotter dans la tête. Alors moi, je veux bien qu'il soit psychologiquement extrêmement fort et que rien ne peut l'atteindre, mais on verra pour arriver à gérer
le match. Allez, le résultat de ce magnifique bras de fer des GG autour de Novak Djokovic. Nous étions à 51% contre 49%. Nous terminons à 50%. 49,5% pour le oui.
On a gagné.
49,5% pour le non. Non, vous avez rattrapé un petit peu de votre retard, mais vous n'avez pas gagné, les copains.
Christophe, le quand c'est oui, toujours gagné. Factuellement, on a gagné.
Bien sûr,
on a merci gagné. Merci, Alex Salio, d'avoir été avec nous. Sachez que tous les jours, eh bien, en podcast, vous retrouverez la carte postale d'Eric Salio en direct de Melbourne dans le podcast, l'excellent podcast Cours numéro 1 sur RMC. Merci beaucoup, Eric. On te retrouve durant cette
semaine. Demain, on sera en direct pour le match de Lucas Pouille, peut-être.
À Melbourne.
Contre Zverev.
Eh ben c'est parfait. 10h28, on se retrouve dans quelques instants pour parler de Mathieu Van Der Poel et de son blasphème, pardonnez-moi, sur le Tour de France. Et puis Clément Noël qui va tout de suite partir à Adelboden pour le slalom. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h33, les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, Marion Bartoli, Fred Weiss, Denis Charvet, mais également Clément Noël. C'est la première manche du slalom d'Adelboden avec Clément Brossard. Bonjour Clément.
Salut JC, salut tout le monde.
Clément Noël qui vient tout juste d'arriver.
Exactement, et pas très satisfait, hein, Clément Noël, de son premier passage ici à Adelboden. Il passait juste derrière Linus Strasser qui lui avait ouvert le portillon. Il est 13 centième en retard. Il est un peu accroché sur la banane, Clément Noël. On sait que c'est des conditions difficiles aussi parce qu'il neige ici à Adelboden. C'est pour ça qu'on a inversé le programme aussi et que le slalom a lieu ce matin avant le géant de demain. Donc évidemment, il est dans les clous. On va savoir aussi peut-être aujourd'hui s'il est totalement remis de sa petite blessure à la cheville. Hein. C'était il n'y a pas plus tard que mercredi dernier. 10 secondes seulement sur la piste avant d'abandonner à Madonna di Campiglio. Là, c'est mieux. Il a tenu en tout cas jusqu'à la ligne d'arrivée, mais il est un peu en retard sur Linus Strasser. Il y aura un autre Français qui va s'élancer dans 13 skieurs désormais, c'est Steven Amier. On a évidemment beaucoup beaucoup d'attentes autour de lui, et puis pourquoi pas Paco Rassa aussi, hein, qui passera en 28e.
Et on retrouvera évidemment Clément Brossard un petit peu plus tard. Le petit-fils de Raymond Poulidor a-t-il le droit de dire ça cette semaine? Mathieu Van Der Poel a fait une sortie remarquée sur le Tour de France, la course qui a fait entrer son grand-père dans la légende. Le Néerlandais, l'une des grandes stars, vous le savez, du cyclisme aujourd'hui, n'aime pas cette course, même après 4 participations, même après avoir porté le maillot jaune et remporté une étape. C'est la punchline des GG, rapportée par notre copine Siri.
RMC, la punchline GG.
C'est une course qui ne me passionne pas. À part essayer de gagner des étapes et de porter le maillot jaune, il n'y a pas grand-chose à gagner pour moi dans le Tour.
C'est une course qui ne me passionne pas. Est-ce tout simplement un blasphème, les GG, de la part du petit-fils de Raymond Poulidor? Oui ou non, Christophe Cessieux?
Peut-être pas blasphème, mais en tout cas, je trouve qu'il est à côté de la plaque.
Ok, on n'est pas loin. Fred Weiss?
Pas du tout.
Pas du tout. Marion Bartoli?
Je pense pas.
Denis Charvet?
Non.
Non. Christophe?
Je peux comprendre que cette course ne soit pas sa tasse de thé. Hein. C'est vrai que c'est un coureur de classique, Van Der Poel. C'est un garçon qui, sur les courses d'un jour, est capable de briller. C'est pas un immense grimpeur. C'est un coureur de cyclo-cross, un puncher et tout ça. Et évidemment, il ne pourra jamais remporter le Tour de France. Il ne pourra même jamais faire aussi bien que son grand-père, qui avait terminé à plusieurs reprises deuxième du Tour de France. Donc ça, c'est un fait. C'est sa physiologie qui l'impose, sa musculature. Voilà. En plus, pour beaucoup, et même certains Français, quand tu leur demandes quelle course ils préfèrent courir, il y en a très peu qui te disent le Tour de France. Parce que le Tour de France, c'est tellement énorme, il y a une telle pression, il y a tellement de temps que tu dois consacrer aux médias, que tu dois consacrer à faire plein de choses parallèles, que même Thibaut Pinot te disait, moi je préfère faire le Giro que le Tour de France.
Je suis peinard.
Donc voilà. Et ce que Mathieu aime faire, c'est être peinard justement. Faire des courses en Belgique tous les dimanches, mettre des tôles à tous les cyclocrossmen belges, ça il adore. Mais en revanche, se frotter au Tour de France, il aime pas trop parce qu'il y a beaucoup de pression là-bas et parce qu'il ne peut pas gagner plus que.
Mais parce qu'il gagnera jamais.
Mais alors. C'est là où je suis pas d'accord, mais c'est si. Que ce garçon, enfin je veux dire, ça fait partie.
Tu dis qu'il est pas bon en montagne, donc je pense.
Non, mais il y a pas que la montagne sur le Tour de France.
Le Tour de France,
il y a les étapes
prestige.
De puncher. Ouais, il pourrait gagner, il pourrait faire comme les grands.
Qu'il pourrait gagner le Tour de France.
Non,
par exemple.
Je te dis pas gagner le Tour de France, mais gagner 5-6 étapes sur une édition du Tour de France.
C'est ce qu'il dit. Et c'est déjà une légende du cyclisme.
Ça fait partie de la légende. Ben, si tu veux vraiment être une légende du cyclisme, t'es obligé de gagner et d'avoir.
C'est pas une légende du cyclisme,
mais ça le sera encore plus s'il brille sur le Tour. Le Tour, c'est la plus grande compétition. C'est comme toi. Soit t'as brillé. Toi, t'as brillé sur les Jeux Olympiques. Autrement, on se rappellerait plus toi aujourd'hui. Voilà, c'est la compétition majeure. C'est tout. Toi, le coup, t'as brillé sur la Coupe du Monde de rugby. T'as brillé sur la Coupe du Monde de rugby. C'est pour ça que t'es reconnu comme le plus grand.
Il a fait des classiques. Il a fait des monuments. Il a fait des classiques, des monuments. Tout le monde le reconnaît. C'est impossible de dire ça. Je trouve ça abusé de dire sous prétexte que c'est le petit-fils de Pudor qui n'a pas le droit de la vérité. Il dit exactement ce qu'il a
dit. Ce n'est pas parce qu'il est le petit-fils de Pudor. C'est parce que le Tour de France, c'est la plus grande course.
C'est pas sa réalité, Christophe. Sa réalité, c'est d'être un coureur d'une journée, de classique, de monument.
Je suis désolé.
Un coureur extraordinaire, déjà dans la légende.
Et bien, moi, je trouve que ça manque de courage. Je trouve que ça manque de courage.
C'est le contraire.
Pas pouvoir s'imposer sur la plus grande course, là où tu as tous les plus grands coureurs qui s'alignent. Je trouve que c'est un manque de courage.
Du courage de dire quelque chose qui est très difficile à entendre pour quelqu'un qui aime le cyclisme. Parce qu'il n'y a pas
de
classique.
Il va que sur les terres où il est sûr de gagner.
Mais son morphotype l'oblige à faire ça.
Mais attends, tu peux. L'année dernière, sur l'étape des graviers, il pouvait très bien. Il pouvait très bien la gagner.
D'abord, il a porté le maillot jaune, chose que n'a jamais fait.
Il
a porté ce maillot jaune. Je comprends un petit peu, j'ai dit non, mais je comprends un petit peu ce que dit Christophe, parce que c'est un peu maladroit, en fait. Ça veut dire, c'est taper sur l'événement le plus grand au monde de son sport.
C'est juste être conscient des réalités.
Mais non, c'est la façon Fred, il peut gagner sur le tour. Il peut gagner les maillots verts, il peut gagner le maillot vert, il peut gagner les étapes de puncher. Il peut augmenter sa légende. Et là, c'est la solution de facilité en disant, le tour,
je trouve que
je peux pas le gagner, donc j'y vais pas.
Tu sais,
c'est presque une réflexion de mauvais joueur.
C'est un problème de communication, parce qu'en fait, à l'arrivée, on croit qu'il tape, qu'il renie presque le tour. C'est ça qui est dérangeant. C'est-à-dire qu'au lieu de dire le tour, c'est fantastique, d'en faire l'éloge, mais il dit que c'est en gros, c'est le tour, j'en ai rien à foutre.
Il est juste objectif. On ne pas encore dire la vérité. Ce qu'il pense, en tout cas.
Je sais bien que c'est objectif, mais parfois, t'es pas obligé de dire des choses comme ça. Ah ben, je suis désolé.
Fred,
je sais que tu comprends rien en vélo, mais en cyclisme, dans le Tour de France, il n'y a pas que le maillot jaune. Il y a d'autres maillots,
et
notamment le maillot vert. Et le maillot vert, c'est un maillot mythique que les plus grands sprinteurs ont remporté. Et si ça ne t'intéresse pas, c'est que tu n'as pas la culture cycliste.
Je parle de lui,
je trouve dommage ce comportement vis-à-vis du Tour de France.
On arrête les attaques personnelles, mon cher Christophe. Ouais. C'est parce que si tu réponds ça, c'est que t'as pas la culture et tout.
Mais c'est surtout que c'est pas moi.
Je parlais d'Anderpool.
Lui, c'est sûr que c'est dommage pour le Tour de France. En tout cas, nous, on aimerait voir.
Non, mais c'est dommage pour lui. C'est dommage pour lui.
Même pour nous.
Sur le Tour, il arrive, il se transforme en équipier. Alors, c'est très bien de faire gagner son équipier Philippe Sen. Mais on a l'impression qu'il redevient un cycliste lambda parce que monsieur a décidé que le Tour, c'était pas sa course. Je suis désolé. Je suis sûr que ce garçon peut remporter le maillot vert à plusieurs reprises, qui peut s'inscrire dans la légende, peut-être pas rattraper Cavendish, mais remporter un nombre, comme Sean Kelly, remporter un nombre d'étapes qui fera encore un peu plus pour sa légende.
Et
voilà,
si ça ne fait pas rêver, s'il préfère les courses un jour.
Si tu préfères les cyclocross du dimanche où tu mets des tôles à tout le monde sans lever finalement.
Et si ça lui fait plaisir. Il est quand même dans la légende.
Alors, si les solutions de facilité, si c'est comme ça que tu envisages le sport, vas-y, envisage.
Non, c'est lui, apparemment. Moi, je sais que c'était. Mais je suis d'accord avec lui. Il a le droit de respecter son opinion.
Je rappelle que son alter ego, Wout van Aert, lui a décidé de faire le Tour de France et que pour l'instant ça construit aussi sa légende à Wout van Aert, parce qu'il brille comme équipier, mais aussi il arrive à remporter des étapes. Marion Bartoli.
Alors je trouve que de dire pour un cycliste qui est quand même le sport le plus dur au monde, de dire qu'il prend une solution de facilité, c'est quand même un tout petit peu dur à entendre. Et justement, tu parles de Philippe Sen qui lui a remporté 9 étapes du Tour de France et qui fait partie vraiment des meilleurs sprinteurs du monde actuel. Et on connaît quand même beaucoup plus Mathieu Van Der Poel que Philippe Sen. Donc pour moi, qu'il ait envie effectivement d'aller... Ça me rappelle un petit peu Pete Sampras avec Roland Garros, qui n'aimait pas la terre battue, qui préférait se concentrer sur l'US Open et sur Wimbledon, et qui finalement n'a atteint entre guillemets qu'une seule fois la demi-finale de Roland Garros parce que la terre battue, il l'avait en cauchemar et en horreur. Bon, tu peux pas Je comprends effectivement que nous en France, le Tour de France est absolument sacré et qu'on a envie que tous les coureurs le courent de la meilleure façon possible et qu'ils donnent absolument tout. Bien sûr qu'en tant que Français, on a envie de ça. Mais je pense que quand tu connais tes capacités, ce que tu es capable de faire, ce qu'effectivement le Tour va te demander en termes d'influx énergétique sur chaque course, chaque jour, plus la presse, etc. et te dire que finalement tu préfères aller gagner un Paris-Roubaix ou tu préfères gagner l'année à Milan-San Remo ou tu préfères être champion du monde sur route ou tu préfères être... de nombreuses reprises champion du monde de cyclocross, comment tu peux en vouloir à quelqu'un? Alors oui, effectivement, c'est le petit-fils de Raymond Poulidor et qu'on va lui dire éternellement, ben oui, mais Raymond, il n'a pas gagné, alors pourquoi toi tu sais pas gagner? Mais on sait tous très bien qu'il ne pourra pas le gagner, il n'a pas les qualités physiques pour cela, il a d'immenses qualités, énormément de qualités, c'est un très grand champion, mais il n'a pas les qualités pour gagner le Tour. Qu'un coureur, pour moi, choisisse ses compétitions, ça ne me choque pas. Je pense que, comme l'a dit Denis, et je suis vraiment d'accord avec lui, il aurait peut-être pu un petit peu mieux le tourner en termes de communication, parce que là, ça fait un petit peu trop entre guillemets, ben je m'en contrefous et puis je viens là, mais bon, il y a vraiment aucun objectif. Je pense qu'il aurait pu l'exprimer d'une manière un petit peu plus
à droite.
Plus à droite, on met un petit peu plus de forme. Mais voilà, exactement. Mais je pense que dans la réalité, il a raison de choisir ses objectifs parce que à un moment donné, tu construis ta légende en fonction de ce que tu gagnes. Et de dans ce que tu gagnes, ça compte plus d'avoir des titres que d'avoir remporté une étape sur le Tour de France. Oui, il a quand même porté le maillot jaune pendant 6 jours.
Oui, mais personne quasiment s'en souvient. Donc, le maillot vert, c'est là où je.
Mais le maillot vert, je pense pas qu'il ait la capacité d'aller gagner le maillot vert.
Mais bien sûr que oui.
Ah, je pense pas.
Mais le maillot vert, il peut être très
sur
bien
autant aller de, chercher. Sur autant d'étapes à aller chercher, alors, c'est
le,
dur.
Le truc, c'est qu'en ce moment, il y a Philippe Sen dans son équipe. Donc,
et
il travaille pour Philippe Sen, mais il pourrait très bien décider.
C'est son poisson pilote, Philippe Sen.
Bosse pour lui, hein, parce que les qualités de sprinter, Mathieu Van Der Poel, c'est ça. Il n'a peut-être pas au même niveau que Philippe Sen, mais on peut envoyer Philippe Sen sur le Giro et envoyer Van Der Poel avec un poisson pilote sur le Tour de France. Et je suis sûr qu'il en remportera quelques-unes des étapes. Et il est capable de gagner non seulement des étapes de sprint, mais des étapes de puncher, c'est-à-dire des étapes où ça monte un peu quand même.
On vous pose cette question aussi parce que évidemment vous l'avez compris, on parle de blasphème. Le mot est évidemment exagéré, mais ça vous nous connaissez parce que c'est le petit-fils de Raymond Poulidor et qu'on connaît la carrière de son grand-père. Donc on a aussi envie de le voir sur le Tour de France. Il y a Guillaume qui veut participer à ce départ. Guillaume, bonjour.
Bonjour les grandes gueules et meilleurs vœux et longue vie.
Meilleurs vœux.
Belle année à toi, mon cher Guillaume.
Merci. Merci,
alors
merci.
Blasphème ou pas blasphème?
Oui et non. Mais
Denis Charvet.
C'est une belle comparaison déjà. Merci. En fait, des fois, je travaille un peu pour le Tour de France pour un confrère, donc j'ai l'impression qu'il dit des fois tout haut ce que pas mal de gens pensent tout bas. Le Tour de France, ça fait rêver vous, ça me fait rêver moi, ça fait rêver tes spectateurs. Mais vous discutez avec la moitié du peloton au septième jour, ils sont complètement râpés parce que ça roule tellement vite que voilà. Comme vous l'avez dit, il y a les médias, le temps que ça demande. Donc aujourd'hui, Mathieu Van Der Poel, il a cette chance que quasiment aucun coureur, à part Pogacar et peut-être Van Aert et Vingegaard, c'est de choisir les courses qu'il veut et qu'il peut gagner. Donc il est aussi avec Philippe Sen à le laisser sur le Tour de France parce qu'en fait il s'achète aussi la conduite parce que Philippe Sen, quand on voit comment il a marché à Paris-Roubaix, on peut se dire que ça peut être un concurrent. Donc il lui laisse le Tour comme ça, il travaille pour lui pour les classiques. Donc moi j'adore ce qu'il dit Van Der Poel en fait, c'est de pouvoir choisir, il a la chance de pouvoir être peut-être champion du monde de VTT, donc il va se consacrer au VTT. Et puis
mais est-ce qu'il doit le dire? C'est pas on aime bien ce qu'il dit, moi par le premier comme toi, mais est-ce qu'il doit le dire?
Mais encore une fois, être objectif, il n'y a rien de mal.
Et en fait, pourquoi il n'a pas le droit de le dire?
Bien
en fait,
sûr.
C'est
mais parce que c'est le Tour.
Quand il dirait ça de Paris-Corrèze, on dirait ouais, mais c'est un manque de respect pour les organisateurs.
Aussi.
Donc aujourd'hui, il y a le professionnalisme, la professionnalisation du cyclisme à la vitesse où ça va. Tu lis des articles comme Pogacar qui te dit on va monter le Poggio à Milan-San Remo en moins de 9 minutes.
Oui, mais là tu parles de la plus grande course au monde. C'est pas, on parle pas de tu me compares à d'autres courses, on s'en fout. Là je te dis que quand c'est ton sport et que c'est la plus grande course au monde, c'est comme si moi je tapais sur la Coupe du Monde, tu vois, c'est pareil, c'est un peu pareil. Je dirais la Coupe du Monde c'est la merde.
Alors je dis pas qu'il devrait le faire à bloc tous les ans, mais au moins décider une année de viser pourquoi pas le maillot vert, de faire une série d'étapes,
et de
remporter et de dire voilà, cette année je gagnerai pas le Tour, mais au moins je vais essayer d'y briller.
Merci Guillaume d'avoir composé le 32-16, débat passé concernant cette phrase donc de Mathieu Van Der Poel. Dans quelques instants, les GG contre-attaque. Vous avez tous choisi un débat. C'est peut-être le GOAT, Christophe Sessieux, qui va s'imposer, qui va gagner avec son Sébastien Loeb. Tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h50, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Christophe Cessieux, Marion Bartoli, Fred Weiss, Denis Charvet. À partir de 11h, on va parler de rugby et du choix crucial, très important de Fabien Galthié pour le tournoi Destination. Ntamack, Ramos, Ramos ou Ntamack? Est-ce un choix sportif Jalibert à l'ouverture ou un choix politique? Comment?
Jalibert.
Alors il n'est pas dans ma liste. Je ne suis pas sûr qu'il soit non plus dans la liste de Fabien Galthié. En tout cas, on en parle à partir de 10h. Mais tout de suite, de 11h. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer, les GG.
RMC. Les GG contre-attaque.
Alors mes GG, à 9h45, vous avez proposé 4 débats soumis au vote de nos chers auditeurs. Le compte X des grandes gueules du sport, ça a extrêmement bien marché les GG contre-attaque aujourd'hui, je tenais à vous le dire. On s'est passionné pour vos débats, hormis 2-3 débats. Les enfants de superstars, 14% pour Fred Weiss, c'est une dernière place bon. Ex aequo. Donc quelque part t'es sur le podium avec Joe Wilfried Tsonga, quel successeur donc pour Joe Wilfried Tsonga qui va aller de nouveau en finale d'un grand chelem peut-être cette saison. C'était proposé par Marion Bartoli. 14% pour tous les deux. Merci d'avoir participé aux grandes gueules du sport.
C'était un plaisir et je suis ravi d'être à égalité avec Marion.
Sharks Toulouse, c'est l'affrontement entre le meilleur club de top 14 et puis l'une des grandes équipes sud-africaines aujourd'hui en Champions Cup. 29% pour toi mon cher Denis Charvet, tu t'es bien battu parce qu'il y avait un ogre face à toi, un glouton. C'est notre ami Christophe Cessieux. 43% la malédiction de Sébastien Loeb sur le Dakar. 9e participation et encore un abandon. C'est à toi Christophe avec son sujet.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de la première partie de carrière de Sébastien Loeb, ce pilote incroyable qui en l'espace de 10 saisons a battu tous les records, notamment en remportant 9 titres de champion du monde des rallyes WRC consécutivement avec à la clé pas moins de 88 victoires en rallye. C'est simple avec ce palmarès. Il est tout simplement le plus grand pilote français de tous les temps, même devant un certain Alain Prost. Alors évidemment, on classe où on veut le WRC par rapport à la Formule 1, mais en tous les cas, en termes statistiques, c'est comme tout à l'heure avec Deschamps, eh bien, Loeb est au-dessus de tout le monde. Du coup, lorsqu'en 2013, il décide de changer de crèmerie, de quitter le plein temps du WRC pour se consacrer à d'autres disciplines, bah, on se dit qu'il allait continuer comme ça, à tout casser sur son passage. À un moment, on l'a même imaginé dans un cockpit de Formule 1 et devenir le successeur d'Alain Prost. Ça, c'est pas fait. Et la suite, vous allez le voir, a été plus compliquée pour lui, car même s'il demeure un pilote hyper rapide, hyper précis, eh bien, la baraka qu'il avait accompagnée durant toute la première partie de sa carrière, eh bien, semble l'avoir déserté aujourd'hui, l'avoir abandonné. Ça a commencé par les 24 heures du Mans, sur lesquelles il s'est aligné à 2 reprises et où il n'a pris que la 2e place en 2006. Pas plus de réussite dans les autres championnats sur circuit, notamment championnat du monde des voitures de tourisme, où là, il s'est classé 2 fois 3e. Mais le plus frustrant pour Loeb, pour l'Alsacien, c'est cette Schkumoun qui semble traîner sur le Dakar, où il s'alignait cette année pour la 9e fois, et où pour la 9e fois, il n'a pas réussi à gagner. Et pourtant, Dieu sait s'il gagne des spéciales, un peu comme Van Der Poel pourrait le faire sur le Tour de France. Hein. L'an dernier, il avait établi un record en remportant 6 spéciales d'affilée, mais en échouant une autre fois à la 2e place. C'est simple, le classement général, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, il ne sait pas pourquoi. Il est mafré, ça a été encore le cas cette semaine. Là, il était super bien, et puis il a fait une petite erreur, peut-être une erreur de pas de pilotage, mais de navigation de son copilote. Il a fait 3 tonneaux, sa voiture était très abîmée, il a réussi à repartir, mais à l'arrivée, on lui dit « Ah non, non, mais votre arceau de sécurité, il est trop abîmé, donc monsieur Loeb, vous êtes obligé de s'arrêter là. »
Il l'a mal pris, hein, d'ailleurs.
Ah, il est super vénère, parce qu'il se dit qu'il va jamais y arriver. 9e participation, aucune victoire pour un mec qui, durant toute sa carrière, a tout gagné. Ça doit être terriblement frustrant.
Est-ce qu'il aurait le droit de dire que le Dakar ne le passionne pas ou...
Non, il ne dit pas. Il ne le dit tellement pas
qu'il a annoncé qu'il allait faire une 10e participation en 2026. Il a déjà pris rendez-vous, mais il est évidemment très frustré après cette 9e participation. Un mot dans quelques instants, mais juste Steven Amier. Sébastien, c'est notre consultant Steven Amier. Et dans le portillon de départ pour cette première manche juste à l'homme d'Adel Boden, Clément. Brossard.
Ah bah Stoney, il aura peut-être encore les cannes. C'est parti en tout cas pour le fiston pour Steven avec son dossard numéro 16. On rappelle que Clément Noël est troisième au provisoire. Ça part pas trop mal pour Steven. Il est à 29 centièmes de retard. Il y a déjà eu trois abandons, notamment celui du local et qu'on attendait beaucoup, Loïc Meillard. Steven qui est toujours dans la descente, il y a un replat et ensuite il y aura un mur à aborder. C'est là-dessus qu'il va falloir être bon. Il est plutôt bien sur ses appuis. En tout cas, Steven, depuis le début, on va arriver sur la fin du deuxième secteur. Il y aura certainement un peu de retard avant la 42 centièmes pour Steven qui est encore dans les temps, hein, bien sûr, pour aller décrocher peut-être une place en deuxième manche. Essayer de rester au moins sur la piste, essayer de faire son meilleur résultat. C'est un quatrième place. Essayer d'aller chercher un podium aussi, c'est ce qu'il veut. Ah, ça frotte un petit peu là sur ce mur, ça va être compliqué. Il perd un peu de temps, 63 centièmes pour Steven Amier. Il faut rester en tout cas solide sur les appuis jusqu'à la fin. Steven Amier qui continue, qui est dans la dernière partie du mur désormais. Il y aura certainement pas mal de retard. Manuel Feller qui est premier provisoire et qui restera premier provisoire. Il termine avec 1 seconde 02 de retard. Steven Amier, 7e provisoire, mais il sera, on peut le dire, hein, déjà présent sur la deuxième manche à partir de 13h30. Clément Noël qui disait notamment après sa première manche qu'il avait quand même encore un petit peu mal à sa cheville, hein, après sa blessure de Val d'Isère. Mais pour Steven, bon, il y a la satisfaction au moins d'être arrivé au bout de cette piste avec des conditions vraiment très difficiles, de la neige, du brouillard aussi qui s'accumule ici à Adelboden. Donc 7e place provisoire pour Steven Amier. Le prochain Français à passer aura le numéro 28 sur le dossard, c'est Paco Rassard.
Et 3e provisoire, Clément Noël. Merci beaucoup Clément Brossard pour toutes ces précisions. On continue de suivre cette première manche du slalom d'Adelboden. Il est 10h56, nous allons vous parler de rugby. Mercredi prochain, la liste de Fabien Galthié, la première liste pour l'ouverture du tournoi Destination, et ce choix du numéro 10, Ntamack ou Ramos. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.